France Culture. Le journal Marion Ferrer.
Bonjour à tous. Au moins 120 personnes sont mortes ce matin en Corée du Sud dans un crash aérien. Nous serons à Séoul avec notre correspondante pour comprendre les premiers éléments de cet accident. Au Tchad se tiennent aujourd'hui les toutes premières élections législatives dans le pays depuis 13 ans. Mais la démocratie est-elle vraiment de retour? Réponse de notre journaliste présent sur place. Mayotte, François Bayrou est attendu demain sur l'archipel dévasté par Chido. À ses côtés, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, qui se trouve face aux défis de la rentrée scolaire. Les images en provenance de la Corée du Sud sont dramatiques. On voit un avion à 747 presque totalement détruit. Les secours s'activent toujours autour de l'appareil. Le bilan provisoire est lourd. 120 morts sur place en Corée du Sud. On retrouve notre correspondante Camille Ruiz. Camille, que sait-on pour le moment ?
L'appareil avait essayé d'atterrir une première fois selon les autorités vers 9h, heure locale, mais un dysfonctionnement avec le train d'atterrissage semble avoir empêché la manœuvre. Les pilotes ont donc tenté un atterrissage en catastrophe. À la seconde tentative, l'avion est sorti de la piste à toute vitesse et s'est écrasé contre un mur d'enceinte de l'aéroport. L'appareil s'est alors enflammé, il revenait de Bangkok, à l'intérieur 181 personnes, la plupart sont coréennes, deux sont des ressortissants thaïlandais. Le président par intérim qui a pris ses fonctions il y a deux jours a appelé les autorités à déployer tous les moyens pour l'opération de sauvetage. Près de 180 militaires, des camions de pompiers et des ambulances ont été envoyés sur place. Vers 10h, l'incendie a été maîtrisé. Pour déterminer les causes exactes de l'accident, une enquête a également été ouverte. Selon les autorités, deux femmes ont pu être sauvées. Elles ont été transportées à l'hôpital.
Et le président par intérim est attendu sur les lieux de l'accident dans la matinée. Autre crash, celui d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines qui a fait 38 morts mercredi au Kazakhstan. Vladimir Poutine s'est excusé hier soir. Le président russe confirme que la défense anti-aérienne russe était en action au moment où l'appareil a tenté d'atterrir. Il ne certifie pas pour autant que l'avion a bien été touché par un missile russe, piste vers laquelle s'orientent les premiers éléments d'enquête. En Géorgie, nouvel épisode de la crise politique qui secoue le pays. Des milliers de personnes sont en train de manifester devant le palais présidentiel à Tbilissi, drapeau européen à la main. Ils s'opposent à l'investiture du président d'extrême droite, Mireille Kavelavici, qui se déroule en ce moment même. Manifestation à l'appel de la chef d'État sortante, Salomé Zourabichvili, qui dit à l'instant quitter le palais présidentiel, mais promet de poursuivre la lutte et assure être la seule présidente légitime. Et puis au Tchad, c'est une première depuis 13 ans. Se déroulent aujourd'hui des élections législatives, dernière étape d'une transition politique de plus de 3 ans, entamée à la mort d'Idriss Déby, président autoritaire au pouvoir pendant plus de 30 ans. Victor Moria, vous êtes notre correspondant à N'Djamena, la capitale. Victor, ces élections devraient confirmer le pouvoir du fils et successeur d'Idriss Déby, Mahamat Déby.
D'abord président de la transition, Mahamat Déby a fait voter une nouvelle constitution par référendum en décembre 2023 pour passer de la 4e à la 5e République. Il remporte l'élection présidentielle quelques mois plus tard, dès le premier tour. L'Assemblée nationale ayant été remplacée par un Conseil national de transition, les élections législatives de ce dimanche sont les dernières de la transition et viennent clore un chapitre mouvementé de l'histoire du Tchad. La mort d'Idriss Déby en 2021 avait laissé un grand vide à la tête de l'État. Le père de l'actuel président avait en effet supprimé le poste de Premier ministre et n'avait plus organisé d'élections parlementaires depuis 2011.
Mais Victor, peut-on parler d'un retour de la démocratie au Tchad ?
En apparence, oui. En lieu, on affirme avoir effectué la transition dans les règles, mais dans les faits, beaucoup d'opposants accusent les proches de feu Idriss Déby d'avoir imposé son fils par la force et surtout d'avoir truqué toutes les élections de cette dernière année. Le principal rival de Mahamat Déby, Succès Masra, explique d'ailleurs que s'il n'a pas remporté la présidentielle de mai 2024, à laquelle il est arrivé deuxième, c'est parce que, je cite, « le camp d'en face est plus armé que moi ».
Alors Victor, quels sont les enjeux de ces législatives ?
Donner une majorité absolue au MPS, le mouvement patriotique du salut, parti de feu Idriss Déby, aujourd'hui en ordre de bataille derrière Mahamat Déby. Les opposants, persuadés que les jeux sont faits d'avance, boycottent pour la plupart les élections. Le MPS a donc le champ libre pour obtenir le nombre de sièges nécessaires et diriger le pays sans contre-pouvoir pendant 5 ans.
Victor Moria au Tchad pour France Culture. Israël confirme avoir arrêté le directeur d'un hôpital hier dans le nord de la bande de Gaza. Arrestation également de 240 personnes. Toutes sont suspectées par l'État hébreu d'être membres du Hamas. L'hôpital Kamal Adwan était le dernier en service dans le nord de l'enclave palestinienne. Il est désormais totalement détruit. L'Organisation mondiale de la santé se dit consternée par ce bombardement. 48 personnes au moins ont été tuées ces dernières 48 heures à Gaza. Après le président de la République, c'est au tour du Premier ministre de se rendre à Mayotte. Départ repoussé de 24 heures. François Bayrou est finalement attendu demain matin sur l'archipel, 2 semaines après le passage destructeur du cyclone Chido. Le Premier ministre promet d'apporter des réponses concrètes pour lancer la reconstruction, accompagné de 5 ministres, dont Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, qui a une échéance le 13 janvier prochain, date de la rentrée des classes à Mayotte. Delphine Schiltz, c'est une rentrée très compromise.
Un amas de cahiers déchirés, des tables renversées, des fils électriques qui pendent. Dans son école du quartier défavorisé de Cavani-Sud à Mamoudzou, où il accueille habituellement 370 élèves, le directeur Rivo Malala raconte au Dravélo est venu plusieurs fois faire un état des lieux.
Les 3 bâtiments ont perdu les toitures.
J'ai 3 écoles mitoyennes qui ont subi le même sort, on va dire.
Au moins 9 classes sur 15 sont hors d'usage. Quant à ses élèves...
Aucune nouvelle actuellement. On attend la rentrée, s'il y en a une, pour faire l'appel. Ce sont des enfants qui habitent dans les cases en tôle, dans l'habitat précaire. Très sincèrement, on s'inquiète.
Du côté des professeurs, le directeur a réussi à joindre les 24 de son équipe. Il assure que toutes et tous seront présents si l'école rouvre à la rentrée le 13 janvier. Cette date sera justement l'occasion de faire le point sur les personnels, alors que plusieurs centaines de professeurs ont demandé à rentrer en métropole. Jacques Mikulovic est le recteur de l'Académie de Mayotte.
On va s'organiser pour une rentrée administrative le 13 janvier, et puis une entrée progressive des élèves à partir de la semaine suivante. Il est important que les équipes pédagogiques qui sont toutes aussi impactées dans leur logement, dans leurs appréciations aussi de la situation, puissent être recensées, qu'on objective réellement la situation de chaque élève.
Et qu'on organise la reprise des cours, formation des groupes, système de rotation sur la journée pour accueillir plus d'élèves, impression des programmes du CNED. Mais tout ça va se mettre en place très progressivement. À Mamoudzou, le directeur d'école rappelle qu'il n'a encore ni eau, ni électricité, ni internet.
Delphine Chills pour France Culture. Gérald Darmanin, lui, s'attaque à la lutte contre le narcotrafic. Dans un entretien publié ce matin dans Le Parisien, il entend faire placer à l'isolement, je cite, « comme les terroristes, les 100 plus grands trafiquants déjà incarcérés ». Le but, les empêcher de poursuivre leurs activités criminelles depuis leurs cellules, reste à trouver des places dans des prisons déjà surpeuplées en France. Et puis, un hommage pour finir ce journal. Hommage au compositeur japonais Sakamoto, décédé il y a près de 2 ans. Pianiste électrique très engagé, il était un pionnier de la musique électroacoustique. Notre correspondante au Japon, Karine Nishimura, s'est rendue au musée d'art contemporain de Tokyo où une exposition très troublante lui est dédiée.
Sonore, visuel, sensoriel, l'exposition hommage à Luichi Sakamoto, Oto Omilu, Tokyo Kiku, regarder le son, écouter le temps est une expérience surprenante. On y entre un peu perplexe sans trop comprendre les ressorts d'une première installation de vidéo et sonorité sombre, mais on s'assied, on écoute, on regarde et on se laisse prendre par une ambiance d'abord inquiétante et in fine apaisante. Cette sensation de stopper le temps et de l'égrener consciemment va aller crescendo au fil des autres installations. Et puis, il y a le piano mis en mouvement par la nature. Un piano installé seul au milieu d'une flaque d'eau carrée, très calme. Il émet des notes en fonction des données de secousses sismiques enregistrées sur la planète. Un hommage du maestro aux victimes du séisme et du tsunami de mars 2011. Un énorme choc pour Sakamoto, resté proche des sinistrés jusqu'à son décès début 2023. La nature et le temps sont les thèmes d'autres installations créées par Sakamoto il y a plusieurs années en collaboration avec les artistes Shiro Takatani ou Fujiko Nakaya. Cette exposition se termine par une installation faite d'une projection vidéo où Sakamoto joue du piano filmé de dos, d'une vitre où sa silhouette se reflète juste devant un piano réel. On resterait là des heures à écouter un morceau de 10 minutes en boucle, troublant. Exposition Richie Sakamoto au Musée d'art contemporain de Tokyo jusqu'au 30 mars 2025.
Karine Nishimura, la météo attend sec et froid ce dimanche avec des nuages sur le nord-ouest du pays. Les températures, moins 1 degré ce matin jusqu'à 8 degrés pour la maximale. La maximale cet après-midi, 15 pour Nice.